C'est l'esprit des lieux sur Radio Barthas. Bienvenue. Vous êtes au cœur d'un territoire vivant, niché dans des paysages que l'on dit caractéristiques. Ce territoire évolue tous les jours grâce aux femmes et aux hommes qui y posent des pierres, prennent des décisions, qui récoltent et sèment des plantes, qui se déplacent sur ces chemins. Derrière nous, des siècles d'histoire et d'intervention ont façonné le décor et nous voici, acteurs, consommateurs, à nous de jouer et de faire des choix, à nous d'agir ou pas, pour poursuivre la construction ou la déconstruction, tout simplement pour vivre au mieux ensemble sur cette géographie si particulière, le tout connecté au monde qui nous entoure et aux lois qui régissent les sociétés humaines. Je vous propose le temps d'un entretien radiophonique d'évoquer ces liens si particuliers. Tentons de conjuguer l'action et le territoire en compagnie d'une ou d'un invité, de parler de nos paysages et de ce qu'on décide d'en faire. Alors aujourd'hui, pour cette émission de l'Esprit des lieux, nous sommes dans les locaux de la Genette Verte, le centre culturel de Florac, où j'ai le plaisir de m'entretenir avec un ethnologue, Martin de la Soudière. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Martin de la Soudière, vous êtes à la Genette Verte ce soir pour une conférence et une projection de deux documentaires. Le premier date de 1961, il est réalisé par Mario Ruspoli. Il s'appelle « Les Inconnus de la Terre ». Alors c'est une sorte de film portrait sur des paysans lozériens qui a fait date dans l'histoire des documentaires, on pourra peut-être en reparler. Et le second, c'est « Traces » au pluriel, un film qui revient 50 ans après sur les lieux et les personnages rencontrés dans le premier documentaire. Alors, Martin La Soudière, vous avez co-réalisé « Traces » avec Jean-Christophe Monferrand, qui travaille au CNRS, et Françoise Eugénie Petit, qui travaille, elle, à l'INRA, je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Vous-même, vous êtes ethnologue, vous êtes rattaché au centre Edgar Morin du CNRS. Le monde rural, la moyenne montagne, les sociétés qui s'y accrochent, la parole des gens, voilà, il m'a semblé, c'est ça qui porte un peu vos travaux. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages, d'ailleurs, sur ces questions et sur ces lieux. Alors pourquoi ce choix, pourquoi cette attirance ?
Attirance personnelle, c'est toujours difficile à dire parce que c'est comme quand on tombe amoureux, on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi, voilà, c'est aléatoire, c'est le coup de foudre. Et voilà. Mais pour faire l'introduction, j'avais 16 ans, 17 ans à peu près, quand j'ai vu ce film de Mario Ruspoli.
D'accord.
Oui, avec mon frère. À l'époque, j'étais en terminale, en seconde, je ne sais pas quoi. Et ce film n'a cessé de me hanter. Pendant très très longtemps. Alors, j'ai fait des études de géographie, pas d'ethnologie au départ.
D'accord.
Mais avec une attirance particulière pour toutes les zones un peu délaissées. Moins la montagne que les zones dont on ne parle pas, où il y a des difficultés, le climat, l'isolement, etc. D'une manière assez personnelle, on va dire. Et quand j'ai eu l'occasion, j'avais juste terminé ma thèse, ou du moins pas encore, justement, j'étais en ma thèse de sociologie au départ, ethnologie. Quand il a fallu que je choisisse un village, donc j'avais le choix entre 36 000 communes, et bien immédiatement, rien que ça.
Exact.
Voilà. Mais mon choix était déjà plus ou moins fait. J'avais quoi, 25, 26 ou 27 ans, un truc dans ce genre-là. Et tout de suite, je me suis dit, oh, la Lozère, j'en avais entendu parler dans les cours de géographie. Je me suis rappelé du film Mario Ruspoli.
De ce documentaire.
Et voilà. Et le choix des communes ou de la petite région qui a démarré mes premières recherches, j'étais encore tout jeune, donc je n'étais pas encore au CNRS, et bien c'était la Lozère.
D'accord.
Parce que la Lozère correspondait, entre autres d'ailleurs à cause de Mario Ruspoli, mais également une attirance pour ces zones un peu délaissées. La Lozère s'est imposée à moi tout de suite.
D'accord. Et donc on peut dire presque que c'est le visionnage de
oui,
ce documentaire
oui,
quand vous aviez
tout à fait,
16 ans, quand vous
tout
étiez
fait,
adolescent.
Tout à fait, adolescent, absolument.
Qui a marqué
absolument,
votre carrière.
Oui, tout à fait, tout à fait. Avec d'autres, comme toujours, avec
oui, bien sûr, bien
bon,
sûr.
Jean Giono, par exemple, avec la Haute-Provence, ouais. Des choses comme ça. Les vacances qu'on faisait avec mes frères et sœurs dans une maison de famille, dans les Pyrénées, on randonnait, on allait voir des petites vallées. Dans ces randonnées, quand j'étais jeune, 15 ans, 16 ans, je tirais mes frères et sœurs. Oui, mais là, là, il y, y a un vieux berger, là, il y a une vieille ferme, etc. Alors, bon, voilà, déjà, je me particularisais. J'avais une espèce d'attirance, vous voyez. Voilà, ouais. Ça, c'est clair. Et pour moi, il n'y aura pas été question, mais une seconde, de travailler ailleurs qu'en montagne. Ça, c'est clair. Soyons clairs.
D'accord. Et notamment la moyenne montagne.
Parce qu'elle est habitée. Et ça fait... Ouais. J'aime beaucoup les Pyrénées, que je connais vraiment très, très bien. Mais... C'est pas pareil. Dès que vous montez un peu en altitude, ben, il n'y a plus que quelques granges, quelques troupeaux. Très vite, c'est la frontière avec l'Espagne. Mais voilà, c'est, les villages sont dans les vallées.
Dans les vallées.
Donc ouais. Ça change les choses.
Dans les vallées. Alors, Les Inconnus de la Terre en 61 et Trace 50 ans après, c'est un parallèle passionnant, mais très complexe.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez recherché au juste dans ce
travail ? Alors, c'était un peu à Paris. Nous recherchions... Comme nous étions trois, chacun avait évidemment son intérêt personnel, on va dire. Voilà. Ouais. Jean-Christophe Monferrand, réalisateur, lui, très cinéphile et cinéaste, lui, c'était énormément savoir comment Ruspoli avait travaillé comme cinéaste, quelle mémoire les gens avaient aujourd'hui de son passage avec son équipe de tournage, avec quel matériel aussi il travaillait et comment ça se passait. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un documentaire qui a fait date.
Ouais.
Au point de vue technique, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais le son direct et non pas le son séparé et recollé ensuite.
D'accord.
Donc, une démarche d'ethnologue, presque d'ethnologie, presque. D'accord. Il rentrait dans les cuisines des gens et puis, in vivo, sur le motif, sur le terrain, il enregistrait avec la caméra. C'était une technique tout à fait innovante. Donc, Jean-Christophe, c'est beaucoup le côté... cinéphilique, le film lui-même dans l'histoire des films documentaires qui l'a beaucoup intéressé. D'accord. Jean-Christophe, réalisateur. Françoise Petit, donc de l'INRA, elle, c'était plutôt ce que sont devenus les paysages, les territoires, la vie rurale, 50 ans après, sur le Causse-Méjean, dans les Cévennes ou en Margeride. Moi, c'était autre chose. C'était plus, étant ethnologue, c'était plutôt la mémoire que les gens actuellement, comment un film qui a fait date localement et nationalement. Donc, 50 ans après, est-ce que les gens qui ont été jeunes, enfants ou adolescents dans ce film, si on peut les retrouver, comment ce film les a marqués et quelle mémoire et ce film, comment il a cheminé d'une certaine manière dans la société rurale, parce que ce n'est pas anodin que dans ces années-là et dans les régions isolées, un cinéaste arrive, il était pratiquement le seul, si vous voulez. C'est le premier.
En 61.
Il y a eu Georges Rouquier avant, dans l'Aveyron. Bon, Farubic et Bicquefin.
D'accord.
En 47. Bon, voilà, il est revenu d'ailleurs ensuite. Il y a eu un précédent. Donc, je me disais, est-ce qu'ils vont être flattés? Est-ce qu'ils se souviendront? Est-ce qu'ils seront émus? Est-ce que ça les a marqués? Est-ce qu'ils l'ont fait circuler à droite, à gauche? Est-ce que ça a servi un peu leur identité? Ou au contraire, on l'a oublié? Vous voyez, un peu le cheminement de ce film.
D'accord.
Donc, il y avait trois axes dans le film.
Vous avez réussi à synthétiser, bon, on n'a pas encore vu le documentaire, on le visionne ce soir, vous avez réussi à travailler sur ces trois axes de travail.
Pas tout à fait, parce que la problématique de la collègue sociologue donc, de l'INRA, très rapidement on s'est rendu compte, donc Françoise Petit, ça l'a d'ailleurs un petit peu déçu, mais là c'est un peu notre cuisine interne, c'est normal dans une équipe, on s'est rendu compte que si on faisait... un état des lieux sur l'évolution de l'agriculture en Lozère sur 50 ans, il faudrait un film en entier. Ou alors, on allait dire des banalités. Il y a moins de population agricole. C'est un peu des évidences aussi que d'autres gens de l'INRA ou autres disent avec des rapports, des analyses très précises, de statistiques et tout. Nous, on n'avait pas du tout envie de s'engager. Ça aurait été trop économique, trop socio-économique, et ça aurait mérité un film en entier. Donc ce volet-là, en fait, on l'a pratiquement... pas tout à fait mis de côté, mais on n'en a pas véritablement tenu compte, quoi.
D'accord. Pourtant, il m'aurait vraiment intéressé ce
volet-là. Oui, tout à fait.
Mais moi,
je suis pas économiste.
Ouais.
Voilà. Françoise, elle était retraitée et elle était plutôt socio-économiste et n'avait pas forcément une vue d'ensemble sur la Lozère parce qu'elle a travaillé, elle, pendant 20 ans, uniquement sur le Causse-Méjean.
Ah ouais, d'accord.
Le Causse-Méjean, avec d'autres collègues de Montpellier, de l'INRA, des sociologues, des ethnologues, enfin plutôt des économistes, de Paris et de Montpellier. Ils ont fait plusieurs travaux qui ont donné lieu à des publications tout à fait importantes, une exposition itinérante et compagnie. Mais elle, Françoise, elle s'est vraiment intéressée, un peu comme une ethnologue ou une sociologue de terrain, vraiment au Causse-Méjean, point barre. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, j'essaierai de la rencontrer.
Donc, ah oui, alors quand vous voulez, elle habite dans la Drôme.
D'accord.
Près de Montélimar. Ça, c'est, quand vous voulez, je vous donne ses coordonnées, ça, aucun problème.
Non, mais pourquoi pas. Alors, malgré tout, on peut peut-être parler un petit peu, moi, sur ce sujet-là, mais sur d'autres. Hein, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, vous, en fait, sur ces 50 années de différence ? 50 ans à l'échelle d'un pays de montagne, à l'échelle d'un pays ancestral, c'est rien. Mais 50 ans dans cette société du 20e et du 21e siècle, c'est finalement énorme. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vous, sur ce parallèle-là, sur ce temps passé ?
Moi, ce que je dis toujours, c'est un peu l'ethnologue qui va parler, là, ou l'historien, enfin, ou l'ethnologue.
L'ethnologue.
Que tout change. Et tout ne change pas en même temps. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, je sais bien. Mais non, c'est-à-dire que tout change. Évidemment que tout change. La population, on en parlait tout à l'heure, des hameaux où il y avait, ou des villages où il y avait 300 personnes, il n'y en a plus que 25, etc. Donc les choses ont énormément changé au point de vue démographique, économique, la taille des exploitations, les spécialisations dans l'élevage et tout. Malheureusement aussi, la disparition progressive des services publics. Ouais. Donc tout ça, c'est pas une catastrophe, mais disons que...
C'est un choc, quand même.
C'est un choc, mais absolument... pas un cataclysme, il ne faut pas dire ça, mais c'est une mutation, voilà. Une mutation
rapide.
Rapide, très rapide, d'autant plus rapide et difficilement vécue parce que les gens sont quand même très attachés à leur territoire.
Ouais.
Donc dans d'autres coins, déjà, entre guillemets, plus développés, cette accélération, je sais pas, dans la Beauce ou dans l'Aisne, dans le nord de la France, déjà, ils étaient en prise beaucoup plus sur le marché et tout. Donc ça fait accélérer, mais ils partaient déjà de... Voilà. Comme ici en Lozère ou dans d'autres coins de montagne, malgré tout, ils étaient... relativement lent à se transformer, c'était véritablement un choc, une mutation, et voire éventuellement un traumatisme, notamment l'exode rural. En même temps, quand je dis que tout change, en même temps, ma conviction, pour travailler depuis 30 ans, vraiment comme une petite fourmi dans les villages, auprès des gens, quelles que soient les saisons, à la veillée.
Notamment l'hiver.
Je suis un fanatique de l'hiver. Donc des jours et des jours, des semaines et des semaines, pas en continu depuis 30 ans, mais quand même 3 ou 4 fois par an, dans des communes différentes, beaucoup en Margeride, un peu en Cévennes, mais surtout en Margeride. Donc j'écoute, je sens, je perçois. Donc il y a des choses qui demeurent. Par exemple, mettons la pratique de l'occitan. Bon, évidemment, il est pratiquement terminé, mais c'est pas complètement fini. Bon, certaines coutumes religieuses, des petits pèlerinages très très locaux dont on ne parle jamais. Dans le Cantal, par exemple, j'ai des exemples très très précis. Ben, quand vous regardez le journal local ou que la dame qui vous raconte, ben voilà, mon fils est marié dans une petite chapelle, c'est la tradition locale. Et ça. Donc il y a plein de... Certains marchés continuent à fonctionner encore. Je prends un exemple, Brion, en Auvergne. Bon, dans le Cézallier, dans le Puy-de-Dôme, dans le sud du Puy-de-Dôme, il y a un marché, je suis allé, je veux dire, voilà, il y a un marché où il y avait l'autre jour, il y avait 1500 personnes. Il y a un marché en pleine montagne. Alors c'est un truc totalement traditionnel, mais en même temps totalement contemporain. Complètement traditionnel parce que c'est la même date depuis peut-être le Moyen-Âge, deux fois par an rituellement, en pleine montagne. En pleine montagne. Donc c'est à la fois, traditionnel, mais en même temps c'est évidemment moderne, dans la mesure où ce sont des gens, pas forcément que des vieux qui y vont. Et puis, on vend évidemment des CD, des je sais pas quoi, des fringues, enfin des vêtements.
L'esprit des lieux est encore là.
L'esprit des lieux est encore là. Voilà. Et voilà, c'est donc il y a une espèce de mélange. Et moi, en contexte ethnologue, c'est essayer de voir, pas forcément ce qui persiste ou ce qui résiste, mais ce que j'appelle souvent, moi, dans mon langage, un peu des buts de témoins. C'est moi qui invente ce terme. Il est peut-être nul, ce terme. Des buts de témoins, alors, j'aime pas le terme culture rurale, me gêne. Moi, le terme que j'aime bien employer, c'est la culture locale.
Ouais.
Ça ne mange pas de pain et ça ne dit pas ce qu'il y a dans cette culture locale.
D'accord.
Dans la culture locale, c'est aussi bien le passage du Tour de France.
Ouais, d'accord.
Mais tout compte. Tout compte.
Ouais.
Le Tour de France, quand il passe à Saint-Flour, tous les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Toute la journée, ils sont à l'arrivée à Saint-Flour ou sur la Planèze pour voir passer le Tour de France. Alors là aussi, tradition, pas tradition, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, mais les gens se regroupent.
Il y a un mélange. Il y a donc d'autres manières de réunir les gens qui sont... C'est plus l'éveillé, c'est plus les foires, c'est plus l'entraide agricole. On est complètement d'accord. Mais cette sociabilité de proximité, en tout cas dans ces régions de montagne, elle n'a pas disparu.
Alors ce que vous dites, ça me fait penser à des photos que j'ai vues récemment.
Je vais vite.
Oui, non, mais allons vite, mais quand même, les mots sont bien, sont importants. Ça me fait penser à des photos de Helmut Krakenberger. Je ne sais pas si vous avez...
De nom, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque
c'est
chose.
Quelqu'un qui est venu, qui habite pas loin, je crois. Il habite en Ardèche. Et il est venu faire des photos dans les années 70, ici, dans les Cévennes. Très belles images en noir et blanc. Vous pouvez trouver sur Internet. Et il photographie les gens, surtout. Un peu de paysages, mais surtout les gens. En tout cas, les paysages façonnés par l'homme. Et on voit une société qui n'existe presque plus aujourd'hui, tout un artisanat. Par exemple, la vannerie, les bouilleurs de crue, voilà. Tout ces... Mais on voit également des images d'artisans, des potiers, des éleveurs. Et finalement, ça existe encore.
Ça n'a pas disparu, ça me fait penser. Oui. Et puis il y a également, puisqu'on est dans les Cévennes, mais là, ce sera un autre débat, et puis c'est quand même très très connu, mais ces fameux savoir-faire dont vous parlez, c'est tout à fait juste, et ces photos, bon, je les regarderai, bien sûr, mais comme certaines pratiques, savoir-faire traditionnels sont repris par des néo-ruraux, des gens beaucoup plus jeunes qui souvent, vous le savez très bien, c'est une évidence, c'est-à-dire, mais, et qui reprennent le tissage, ceci ou cela, mais d'une manière différente.
On dirait qu'on s'élire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent. Et que notre amour, c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. J'ai traqué les toujours des océles et déesses, goûté aux alentours, souvent changé d'adresse. Ce qui nous entoure, l'extension de nos corps, quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or. Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? On dirait qu'on sait lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Peut-être que la nuit le monde fait la trêve. Et qu'aujourd'hui ton sourire fait grève. On dirait qu'on sait lire sur les lèvres. Et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. Peut-être que la nuit le monde fait la trêve. Et qu'aujourd'hui ton sourire fait grève. On dirait qu'on sait lire sur les lèvres. Et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
Sur un trapèze, Alain Bachung avec Gaëtan Roussel. Donc là, c'était le dernier album de Bachung, un petit peu version acoustique. On retourne à la Genette Verte où on discute, on parle territoire, histoire et paysannerie avec Martin de la Soudière. C'est parti.
Sur le documentaire de Mario Uspoli, Les Inconnus de la Terre en 61. Pourquoi lui s'intéresse-t-il aux Cévennes et à la Lozère?
Alors c'est hyper simple, c'est que sa femme c'était la fille du marquis de Chambrun. Donc un aristocrate de gauche de Marvejols dans ces années-là. Donc toute une tradition déjà socialiste, on va dire, mais quand même aristocrate, c'est pas forcément contradictoire. Et donc il allait passer, quand il était jeune, tout jeune marié ou fiancé, toutes ses vacances, quand il avait, je sais pas, 22, 25, 30 ans, toute une partie de ses vacances se passait à la, comment dire, dans le château de famille à Marvejols. D'accord. Avec sa future femme. Lui-même, Mario Ruspoli, il avait déjà fait d'autres films, mais enfin, pas tant que ça, il n'en avait pas fait énormément. Il a fait quand même d'autres films. Et c'était sa nature, paraît-il. d'avoir une espèce d'empathie pour les gens. Il aimait les gens. Je le dis très vite, hein, c'est des rumeurs de gens qui ont connu Ruspoli. Hein. Il avait une espèce d'empathie, une sympathie.
C'est un personnage un peu fantasque.
Si on part sur Ruspoli, là, pour deux heures.
Non, on va pas partir sur lui.
Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur même sa personnalité, sa démarche de cinéma.
Parler plusieurs langues.
Voilà, tout ça pour dire que, étant donc passant ses vacances, donc relativement jeune, à Marvejols, eh bien, la famille de Chambrin ou lui-même, il allait à vélo, je sais pas quoi, en voiture avec sa femme ou sa future femme, enfin n'importe. Donc, dans les fermes, dans les paysans, et il était un peu fasciné, je veux dire, par ces personnages, par ce mode de vie qui était quand même très rude, mais en même temps qui a beaucoup de dignité, etc. Donc, il s'est entiché pour cette vie rurale. De Lozère, en l'occurrence. Et derrière cette vie rurale, c'était l'isolement, c'était la difficulté de vivre, c'était l'isolement, en fait. Finalement, sa question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se débrouiller quand on habite dans le sommet du mont Lozère, bon, à Lozérette, ou je sais pas où, sur le Causse, bon, il y a un berger qui est interviewé. Donc, il a trouvé 6 personnages, ou 6 familles, et donc, les uns après les autres, il est allé les voir. D'accord. Et en mangeant avec eux, en discutant longuement, une fois, deux fois ou trois fois, donc avec une proximité que n'avaient pas d'ordinaire les cinéastes, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais que n'avaient pas les cinéastes, même documentaristes de l'époque, vous voyez ce que je veux dire, ou c'était plutôt de la télé, il y a eu des émissions sur les paysans, alors c'était glaçant, quoi, c'est des questions-réponses, vous voyez ce que je veux dire, là dans son film, on le voit en train de casser la croûte, on sent qu'il y a une espèce d'immédiateté, et donc il a réussi un petit chef-d'œuvre, un petit prodige à la limite. D'accord. Notamment pour l'époque.
Pour l'époque, ouais. Et vous, comme lui, vous êtes intéressé à ce territoire parce que il était donc différent des autres. C'est-à-dire que Mario Ruspoli, il ne serait pas allé, et vous non plus, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la plaine.
Quoi. Non, tout à fait, absolument, tout à fait, absolument. Et ce qui m'intéressait, c'est justement, mes toutes premières recherches, rassurez-vous, je ne vais pas en faire la genèse. C'était sur la vie, c'était sur la vie des enfants. D'accord. Ruraux. Oui, ruraux.
En moyenne montagne.
En moyenne montagne. Et curieusement, là encore, c'est pas pour dire cocorico, c'est pas moi, c'est mon directeur de recherche qui nous a eu ce travail, un contrat de recherche payé par un ministère, peu importe. Bref, avec d'autres camarades, on a travaillé sur le statut de l'enfant en milieu rural. Et curieusement, l'enfant, il y avait beaucoup de psychologues qui travaillaient ou qui travaillent, et c'est très bien, dans les banlieues, dans le centre-ville, etc. Mais l'enfant rural, on considérait qu'il n'y avait aucun problème, que tout roulait, pas du tout. L'enfant rural, il a les mêmes angoisses, les mêmes rapports avec ses parents, ses camarades et tout, mais d'une manière un peu différente. Et donc, on était un peu pionniers aussi là-dedans, quoi, essayer de montrer comment dans ces zones, moi, c'était plutôt en Margerie, vers Châteauneuf-de-Randon, si on veut être précis, dans 1300 mètres d'altitude, c'est quand même déjà très sévère. Et ma question qui m'a interloqué au début, c'est mais comment ils arrivent, enfin pas forcément à vivre, mais à être productifs, être à peu près heureux, comment les écoles se maintiennent dans les années, donc c'était les années 75-80, il y avait encore des écoles, et je me suis rendu compte qu'il y avait une vie locale plus traditionnelle, même en 75, c'était plus entre guillemets traditionnel, il n'y a plus l'éveillé, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, les gens, ils vivaient, je ne sais pas comment dire, moi, et encore maintenant, chacun est un centre du monde. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est isolé. Et justement, c'est tout le propos de Mario Ruspoli, c'est ça. Alors, je vais vous donner une très belle expression.
Allez-y.
Très belle expression d'un paysan du Causse Méjean. Je posais la question, Causse Méjean, vous connaissez, évidemment. Vous avez la plus petite densité rurale de France, donc 5 habitants au kilomètre carré, vous le savez aussi, bien sûr. Et donc, les villages, les hameaux, les communes. Il y en a tous les 2 km, tous les 5 km, c'est quand même plus de 1000 mètres d'altitude. Et vraiment, le monsieur, monsieur Barret, qui malheureusement n'est pas dans notre film, peu importe, je lui ai dit, mais monsieur Barret, l'isolement, comment vous le vivez? C'est pas trop difficile, je faisais un petit peu l'âne pour avoir du son. Et il a eu cette formule absolument superbe, l'isolement, c'est un état d'esprit. C'est sublime.
Sublime.
C'est sublime. Pardon, il n'a pas pu m'en dire plus, mais ça, c'est resté gravé. Et dans certains articles, je le dis. Je crois que c'est très, très juste.
C'est au-delà de l'aspect physique ou géographique.
Bien entendu. C'est autre chose. On peut être en pleine ville, être complètement isolé si on est misogyne, misanthrope, je sais pas quoi, si on n'aime pas son voisin. Et inversement, être complètement isolé à 5 km de tout le monde, mais faire partie d'une petite association locale, avoir un cousin pas loin à qui on donne un coup de main au moment des foins, ou je sais pas quoi, ou s'il y a un problème, conduire à la belle-mère même à 10 km, etc. Donc, ils ne se sentent pas isolés.
Quelqu'un se micro,
si vous voulez.
Tout à fait. Voilà. Quelqu'un se micro me disait, dans le cadre de cette émission, un jour, Ici, je ne me sens pas dans un territoire enclavé.
Non, mais voilà. Voilà.
Je me sens enclavé quand je vais à Montpellier.
Tout à fait, oui,
donc
absolument.
C'est uniquement effectivement, tout à fait. Sur l'aspect géographique.
Une question de absolument.
Alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est que finalement, le choix des Cévennes ou de la Lozère dans les travaux de Mario Ruspoli ou dans les vôtres, c'est pas forcément sur le territoire déshérité, c'est cette image qui colle
tout
à ce territoire. Hein.
Tout à fait.
C'est justement sur le côté peut-être intrigant et sa force en fait.
Tout à fait, absolument.
Et la force de ses habitants.
Voilà, absolument. Et c'est pour ça que c'est le film. Enfin, nous, c'est différent parce que notre film repasse sur Ruspoli, donc les personnages, ils sont vieillis, donc c'est pas forcément une vivo, donc on ne le montre pas. Mais Mario Ruspoli, c'est là où je trouve que c'est oui, vous l'avez très très bien dit, c'est que ce sont des personnages qui, objectivement ou de l'extérieur, on se dit, oh le pauvre, comment vit-il? Il doit être malheureux. Il était un peu comme dans les films de Pardon. Il ne doit pas dire. J'aime pas tellement de Pardon. Hein. Il faut pas le dire, ça. Mais bon, bref.
On coupera peut-être.
Oui, on coupera peut-être. Et donc ben, ces gens-là qui, extérieurement, donnent l'impression ou l'image de gens, effectivement, comme vous dites, isolés, déshérités, etc. Mais c'est universel. À partir du moment où vous êtes au contact d'eux un peu dans leur quotidien, mais Ruspoli n'a pas été en permanence, mais quand même, eh bien vous rendez compte qu'ils ont des cœurs d'or, une créativité, une intelligence, une faconde. Pas tous, évidemment, mais pas plus ni moins, pas moins qu'en ville, comme proportion. Et donc, ils ont un langage, comment dire, intelligent, imagé, ils gambergent, ils ont de l'humour. Et même s'ils vivaient à l'époque durement, ben ils ont une joie de vivre, finalement, quoi. Enfin, une force de vie, plus qu'une joie de vivre, une force de vie. Alors que, effectivement, de l'extérieur, on a l'impression que, bon, tous paumés, misérables, ils sont au ras de leurs soucis, et puis également que c'est une société en voie de disparition complète, si vous voulez. Donc, voilà. Et à l'époque, c'est ce qu'il disait Ruspoli, vous verrez dans le film tout à l'heure, il le dit clairement, ces régions déshéritées, on ne se penche pas, il le disait donc en 61, on les méprise, ou du moins, on les ignore complètement. On les ignore à l'époque, surtout, enfin... Même les sociologues ruraux et compagnie, c'était pas les sociologues ruraux, les économistes ruraux travaillaient plutôt sur l'Ouest ou sur des régions plus productives, le Sud-Ouest, la vigne, etc. Ces zones de montagne, il n'y avait pas beaucoup de travaux, pas beaucoup de recherches.
Justement, vous, est-ce que votre objectif, en quelque sorte, un des objectifs, hein, c'est de changer le regard d'une société qui est très urbaine aujourd'hui.
Oui, hein, tout à fait.
Très très urbaine.
Tout à fait.
Est-ce que c'est changer leur regard, enfin en tout cas. Finalement, leur apprendre quelque chose sur ces milieux montagnards
Oui, leur apprendre d'une manière... Évidemment, si on veut être très orgueilleux ou très vaniteux ou je ne sais pas quoi, je veux dire, c'est plus généralement, c'est finalement... Parce qu'au-delà de... Bon, évidemment, c'est le milieu rural qui me préoccupe et qui m'intéresse. Mais bien entendu, entre autres comme chercheur, derrière ces quatre figures de ces montagnes, c'est le rapport qu'on a un peu à l'autre, finalement. Quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Un peu comme Ruspoli, qui dit très précisément dans son film, enfin dans l'interview, qui est dans son film, dans le nôtre, il dit que ce n'est pas les régions déshéritées dont il a voulu parler, il a voulu parler de l'isolement, de comment on s'en tirait avec l'isolement. Et je dirais que moi, ce n'est pas l'isolement qui m'intéresse derrière l'histoire de paysan, mais c'est plutôt le rapport à l'autre, aux différents, et à ce qu'on considère effectivement comme marginal et qui ne l'est pas. La notion même de marginalité, pour moi, ne veut rien dire.
D'accord.
Enfin, en gros, dire que n'importe quel, chacun est un monde en soi-même et marche par rapport à quoi? Je refuse absolument de faire une hiérarchie entre des valeurs, alors politiques, intellectuelles, de réussite sociale et compagnie. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. Si vous voulez, dans le regard que je porte sur les autres, c'est d'abord comment la personne témoigne de sa propre vie, quelles que soient les voilà. Et si je peux me permettre. Un de mes travaux il y a 5-6 ans, un livre s'appelle « Poétique du village, rencontre en Margeride ». Qu'est-ce que c'est que ce livre? Si j'en parle, c'est pas pour en parler, c'est ma pub, c'est pas ça. J'ai choisi, dans ce secteur de Nord-Margeride, Cantal et Lozère, 7 personnages un peu atypiques, mais qui témoignent du fait qu'ils soient un idiot de village. J'ai côtoyé un idiot de village pendant 2 ans. Enfin, je le voyais sans arrêt, j'interviewais. Il perdait à moitié la mémoire. Il était un peu branquignol. Il dormait dans les fossés. Il se lavait jamais de ce qu'on voudra. Bon, voilà, ouvrier agricole par intermittence. Je me suis dit, mais ce monsieur, ben, il a quelque chose à dire. Enfin, pas forcément directement à moi, mais un idiot de village, derrière ce personnage, derrière l'isolement et tout ça, c'est quelqu'un de très différent. Comment il a été inséré dans ce village, jusqu'il est mort là il y a 3 mois. D'accord. Pendant 40 ans, il était... Donc c'est contemporain. C'est pas un mythe d'un chercheur parisien ou je sais pas quoi, dire « Ah, l'idiot de village, c'est merveilleux ». Non, je l'ai côtoyé. Et il y en a encore.
Ouais, ouais.
Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a plein et que, bien sûr, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore.
Ouais.
Je ne roule pas pour dire que je fais aucun pronostic. Il y en aura, mais je pense qu'il y en aura toujours, plus ou moins, quelqu'un de différent, qui ne sera pas forcément idiot de village, qui ne sera pas simplet, qui ne sera pas machin truc, mais quelqu'un de, justement, moins bien intégré, etc. Et mon hypothèse, qui n'est pas uniquement la mienne, c'est que cet idiot de village, il fait partie du village, enfin, il est mort il y a 6 mois, partie... Plus que beaucoup d'habitants, ils faisaient partie du village, ils définissaient le village. Vous voyez le paradoxe.
Ouais, je vois.
Et je ne suis pas uniquement le seul, il y a une collègue qui a travaillé sur les... Enfin, je ne vais pas vous faire la leçon, mais sur les idiots de village dans la Grèce rurale. Eh bien, j'ai lu son travail qui est absolument remarquable. Et c'est ce qu'elle dit, qu'on a besoin, souvent, d'un pitre, d'un clown, de quelqu'un de différent, mais inclus, exclu. Exclu parce que marginal, évidemment célibataire, vivant dans les vieilles granges et compagnie, mais en même temps... Il fait rire le monde, il s'occupe des enfants, le jour de la fête, il fait le fou, il danse avec tout le monde, et il fait rire la société. Donc à la fois on le rejette, mais en même temps on en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est intéressant.
Voilà, voilà. Bon, et donc j'ai 7 cas de figure, 7 personnages, dont cet idiot de village.
D'accord. Comment vous percevez aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette question ? Comment vous percevez aujourd'hui les Cévennes.
Alors moi, je suis, malheureusement pour vous, d'un naturel optimiste. D'accord.
Malheureusement ou heureusement.
Ou heureusement, comme vous voudrez. Donc, vous pourriez me montrer des trucs terribles. Moi, je pense que de toute façon, il y a des trucs positifs qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas
voir. En fait,
que
soit la situation. Je pense qu'il n'y a rien de terrible, oui, mais il y a des évolutions. Oui, comment vous les percevez ? Est-ce qu'à votre avis, quelles sont ses chances, en fait, et les points sur lesquels... On devra porter une attention peut-être un peu plus sensible, ou je sais pas. Est-ce que vous avez une...
J'aurais un peu du mal à répondre.
Ouais.
Comme disait Mao Tse-tung, vous connaissez peut-être la boutade. Il disait... Non, attendez, c'est très sérieux. Il disait à ses fonctionnaires, c'est connu ça, sans enquête, pas le droit à la parole. Pas mal ça quand même. Mao Tse-tung. Bon, on en pense qu'on veut de Mao, c'est autre chose. Donc, réponse, cher ami, je n'ai pas vraiment enquêté dans les Cévennes. Donc j'aurais du mal véritablement à avoir un point de vue informé, sinon je serais un escroc, vous voyez ce que je veux dire, je serais, bon, voilà. Mais je vais quand même tenter un tout petit peu de vous répondre quand même.
Les Cévennes ou ce territoire de moyenne montagne, que vous connaissez bien.
Moi je pense que, comment dire, il y a tellement, alors je vous dis des choses très différentes, enfin, à coup de hache, les dégâts des pesticides, machin, de l'agriculture biologique, au contraire, industrielle et tout,
ouais.
Et la surpopulation dans les villes, etc., comme c'est, à mon avis, je ne suis ni économiste ni quoi que ce soit, mais c'est malheureusement, ça paraît exponentiel, donc je pense que depuis toujours, des régions comme les Cévennes ont su tirer leur épingle du jeu, mais, alors, 2 choses. 1, c'est pas tout de suite, il faut attendre pour que vraiment il y ait une relève, qu'il y ait vraiment des innovations, etc. Et 2, donc il faut attendre dans le temps, et globalement, je le pense pour la France, globalement, sans parler uniquement de l'agriculture bio, puisque je connais pas bien l'agriculture, c'est pas mon domaine. Et 2, comment, alors là, question massive, je vais vous embêter, évidemment, ça c'est le truc du sociologue, non, je vais vous embêter. Comment généraliser à partir d'un territoire, quel qu'il soit, quand vous avez une association ici ? Une initiative là, à 20 km, un monsieur machin, une madame truc, une coopérative, un machin un truc, comment arriver à dire que, quelle est la proportion, qui va décider que c'est l'ensemble de la région qui est dans cette innovation, dans cette coopération, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, toutes ces, parce que c'est pas uniquement propre aux Cévennes, mais, c'est pas vous que je vais le dire, bien entendu. Bon, alors, je prends un exemple. Il y a 3 ans, revenons au film. Je faisais une intervention, enfin une projection de notre film à Sainte-Croix, Vallée française,
d'accord.
En février, il neigeait, d'accord ? Vous savez combien il y a de personnes ? 80. Je répète, février, Sainte-Croix, Vallée française, 242 habitants à peu près, 256, enfin bon, par là. Eh bien, il y avait salle comble. Alors, évidemment, vraiment salle comble, et c'était passionnant. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, monsieur le sociologue, vous avez bien vu qui était. Évidemment, je ne suis pas idiot. Malheureusement, très peu de personnes vraiment âgées, des agriculteurs, il Il y en avait certainement, massivement, c'était des profs, des machins, le maire du coin, des néos qui faisaient des plantes médicinales ou je sais pas quoi. Ou des... Enfin bon, évidemment, il n'empêche quand même qu'en février, enfin, je me répète, je sais, en février, il neigeait tout, et une commune de 250 habitants à peu près, ça m'a, je le dis souvent, quoi, ça m'a chauffé, ça m'a réconforté.
À la limite. Une énergie.
Oui. Ça veut donc dire qu'il y a des gens, donc d'une part, ça je le sais bien entendu, il y a une relève, les fameux néo-ruraux des années 68-70, plus ou moins il y a une relève, ça change, ils sont moins nombreux, ils n'ont pas les mêmes idéologies, ça, on est d'accord, ils n'empêchent qu'ils sont quand même vachement présents. Quand
oui,
même,
ils sont prêts à débattre aussi.
Ils font autre chose, ils font de la randonnée, ouais. Je ne sais pas quoi, enfin bon bref, mais et ils sont prêts à débattre, et le culturel, ça, voilà, donc c'est hyper encourageant. Or c'est quand même les Cévennes. Les Cévennes, c'est quand même pas de la rigolade, dire, c'est pas la bourse, hein, quand même. Voyez, voilà. Donc je suis optimiste de toute façon. Quoi.
Alors,
mais encore une fois, si on est optimiste, je pense que pas les fruits, mais cette évolution, il faudra attendre peut-être 5, 10, 15 ou 20 ans pour que ce soit manifeste et plus global et que voilà. C'est une contre-zone de production, enfin un contre-modèle qui va évidemment. De toute façon, c'est pas nouveau. Il s'est toujours, comme on dit, focalisé dans les Alpes du Sud. Enfin, vous le savez très bien, en Ariège, sur le plateau de Mille Vaches, très important le plateau de Mille Vaches. Il se passe des trucs terribles dans le plateau de Mille Vaches. Il y a des cafés solidaires, machin, etc. Même dans le centre-Bretagne, il y a également pas mal de néo, mais des néo de nouvelle génération, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est encourageant, même, et c'est pas même les zones déshéritées, parce que justement, zones déshéritées, parce que le bâti est quand même moins cher. Bon, voilà, il y a encore des traditions locales aussi qu'on peut se récupérer ou se réapproprier, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est porté par une histoire aussi culturelle.
C'est leur chance finalement.
Voilà.
C'est leur chance, toujours. C'est un support,
toujours.
En fait, ce support géographique, quelquefois difficile,
tout
climatique
à fait.
Même, plateau de vache.
Oui, oui. Mais justement, comme c'est difficile, ça attire les gens. Bon, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs.
Voilà, alors,
beaucoup de tourisme, bon, ça vive le tourisme, c'est pas le problème. Mais disons que c'est, bon, voilà, c'est à double, à plusieurs. Bonjour.
Dernière question, à contrario, en fait. Hein, est-ce que le documentaire de Mario Ruspoli, mais plus généralement, est-ce que des images avec leur puissance, des mots, des créations de ce type-là, est-ce qu'ils donnent également une couleur à certains lieux? Est-ce qu'un travail comme celui de Mario Ruspoli, il marque finalement la Lozère, lui donne une sorte d'image de marque qui va perdurer dans le temps?
Tout à fait. Perdurer dans le temps, là vous êtes un peu optimiste éventuellement, mais en tout cas ce qui est clair, c'est pas pour reparler de moi, mais on a fait avec Jean-Christophe et Françoise un nombre, enfin beaucoup de projections, un peu pour dans le sens que vous disiez, à quoi peuvent servir vos recherches pour justement dédramatiser la marginalité, etc. Donc on a présenté à Marvejol, Pont de Montvert, etc., dans pas mal d'endroits, Sainte-Croix-Vallée française et à Mende aussi. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que le public était extrêmement friand, c'est-à-dire le public local, on va dire régional et local, parce que justement, sans qu'ils le comprennent exactement, d'ailleurs, c'est assez curieux, il y a une espèce de mystification, mais peu importe, ils le prennent un peu comme un film patrimoine. Un film patrimoine qui témoigne effectivement des années 60, dont ce qu'était la Lozère à cette époque-là. Mais en même temps, il n'est pas du tout passéiste. C'est là où il est assez fort, le film de Ruspoli. Il n'est pas passéiste. Ce n'est pas les traditions populaires, le battage à l'ancienne, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Mais les gens, comme un petit département comme la Lozère ou comme n'importe quel département, c'est pas tous les jours, enfin, c'est pas tous les lieux qui ont la chance d'avoir un cinéaste de grande qualité qui, 50 ans avant, a fait un film sur le département. Donc, je ne dis pas que c'était ça le comble ni rien, mais à chaque fois qu'on l'a projeté, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et on sentait que les gens étaient en appétit, je veux dire, pour ce film, pour ce genre de témoignage, quoi, voilà.
C'est vivant.
Voilà.
Ben, merci beaucoup, je Martin Lassoudière. On a parlé d'énormément de choses. On a entendu des mots comme zone délaissée, attachement au territoire, force de vie.
Force de vie aussi, tout à fait.
Force de vie,
absolument.
Et relève. Merci beaucoup. Bonne soirée à la Genette. Bonne conférence et bonne continuation dans votre
travail. Merci. À bientôt.
Au revoir.
C'était L'Esprit des lieux sur Radio Bartas. À la technique, on avait Christophe, et à l'écriture et à l'animation, Eric. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une rediffusion ou pour un nouvel entretien. À bientôt.